It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonsoir à tous, il est 20h, c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur CNews face à Rioufol. Bonsoir mon cher Yvan.
Bonsoir Olivier.
De vous accompagner ce soir. Avec vous également, comme chaque semaine, Véronique Jacquier. Bonsoir ma chère Véronique.
Bonsoir à tous.
Le sommaire dans un instant, mais avant le rappel des titres, on retrouve Isabelle Piboulot. C'est à vous Isabelle.
Une marche pour la paix à Marseille, un rassemblement à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence de la violence dans la ville, notamment en raison des trafics de stupéfiants qui touchent des individus de plus en plus jeunes. Cette marche a eu lieu à quelques jours de l'avenue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Le chef de l'État y sera présent du 26 au 28 juin. En Savoie, après une nuit calme, les opposants à la ligne Lyon-Turin ont progressivement quitté leur camp de base de la Chapelle. Cette journée était un temps pour se rassembler, débattre et envisager la suite, a précisé la porte-parole des Soulèvements de la Terre, une des organisations à l'origine de la manifestation non déclarée. Hier, plus de 3000 personnes se sont réunies selon les autorités. Figure de la résistance et rescapée du génocide arménien, Missak Manoukian va entrer au Panthéon, accompagné de Méliné, son épouse. La date est fixée au 21 février 2024, soit 80 ans après sa mort. L'annonce faite par l'Élysée coïncide avec le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron s'est aujourd'hui recueilli dans la clairière des fusillés, où Missak Manoukian et 21 de ses compagnons d'armes ont été exécutés en 1944.
Merci Isabelle Piboulot que l'on retrouvera à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Face à Rioufol, au sommaire ce soir, une campagne de publicité qui fait polémique, celle du musée de l'histoire de l'immigration. Pour annoncer sa réouverture hier, le musée a choisi de mettre en scène le roi Louis XIV en étranger issu de l'immigration. Alors, qu'est-ce que révèle cette intention? Est-ce une propagande d'État? L'avis d'Yvan Rioufol dans un instant. La grande offensive de l'écriture inclusive dans les universités, un combat idéologique qui s'étend désormais aux cours et aux examens. C'est ce que l'on apprend dans une enquête du Figaro cette semaine. Alors d'où vient cette réalité? Peut-on parler d'atteinte à la démocratie? Décryptage d'Yvan Rioufol à suivre. Et puis, le chef de l'État a annoncé aujourd'hui l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian, héros de la résistance, apatride et communiste. Alors qui est-il? Vous en parlerez notamment avec votre invité Stéphane Courtois, ancien maoïste, historien du communisme. Avec lui, vous reviendrez aussi sur les nouveaux courants du totalitarisme. Stéphane Courtois, auteur du célèbre Livre noir du communisme, auteur également du Livre noir de Vladimir Poutine. Et on démarre donc avec le musée de l'immigration, Yvan, qui a rouvert ses portes, c'était hier à Paris. Il a choisi de mettre en scène, dans une campagne de publicité, Louis XIV en étranger issu de l'immigration. Alors on va le voir, on peut lire sur l'affiche, c'est fou tout ce que ces étrangers qui ont fait l'histoire de France, je vous le rappelle, le roi de France, né d'une mère espagnole et d'une grand-mère autrichienne, Yvan, et cette affiche que l'on voit à l'antenne, eh bien, elle vous a choqué.
Bon, d'abord, remarquons tout de même cet hommage rendu à la monarchie de la part d'une république qui jusqu'alors disait que tout n'avait commencé qu'avec elle-même. Donc il y a quand même là un rappel, mais c'est un rappel involontaire, me semble-t-il, aux racines historiques de la France. Mais je suis abasourdi par l'énormité et la violence de ce mensonge d'État que seule une propagande officielle peut produire. De dire que Louis XIV était un immigré, c'est d'abord prendre les gens pour des imbéciles. Et en plus, c'est une erreur historique. Louis XIV était le descendant d'Henri IV, le descendant des Capétiens. Et en effet, sa mère était espagnole et sa grand-mère autrichienne. Mais enfin, c'était une chose très courante dans l'Ancien Régime. Et lors de la Régence, la France a été gouvernée, et même plutôt bien gouvernée, par un Italien, Mazarin, et par une Espagnole, Anne d'Autriche. Donc c'est une bêtise incommensurable que d'avoir voulu faire cette propagande qui vient asseoir le fait qu'aujourd'hui, l'immigration aurait fait la France, que les Français dits de souche, les Français-Français, les Français auxquels j'appartiens d'ailleurs, je n'en avais jamais fait fierté, mais maintenant je me sens presque humilié dans le fond à avoir également à disparaître sous ces effets de cette propagande, que ces Français-là n'ont plus leur place au profit de la diversité sacralisée. Et donc, je trouve que cette guerre des mémoires est tout à fait déplaisante et surtout, elle vient en appui d'une idéologie qui ne veut pas prendre en considération l'apport historique essentiel. On veut effacer la mémoire gauloise, on veut effacer la mémoire française au seul profit, effectivement, d'appuyer très lourdement sur le fait qu'aujourd'hui, les immigrés étant les rédempteurs de nos fautes, à la limite, c'était un peu comme ça qu'il faudrait l'expliquer, que ces immigrés-là auraient toute leur place à prendre, y compris dans notre passé. Moi, je refuse naturellement ceci, mais ce qui m'effraie le plus, je suis donc abasourdi par cette violence et par ce mensonge, mais je suis abasourdi également par le peu d'écho, dans le fond, par le peu de réaction, en tout cas chez les hommes politiques, qui n'ont rien dit, a priori, à cette désinformation. Je ne cesse d'entendre le gouvernement nous dire qu'il veut lutter contre les désinformations, qu'il veut lutter contre les fake news. Et là, il avalise à travers, en tout cas, ce message porté par le musée de l'immigration, qui fait partie du ministère de la Culture. Il avalise une énorme fake news. Et c'est une fake news qui a été élaborée depuis longtemps, parce que M. Papendiaï, qui, avant d'être ministre de l'Éducation, a été le directeur du musée de la Porte Dorée, c'est-à-dire de ce musée de l'immigration. Et il avait dit à cette époque-là, quand il était le directeur de ce musée, « Notre mission est de faire de l'immigration l'élément central de l'histoire nationale ». Donc tout est dit. On sait aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils ont dans la tête. Or, il me semble que c'est ce procédé de réécriture de l'histoire, que cette guerre des mémoires qui a été ouverte au prétexte d'appuyer une idéologie est un procédé qui me semble être se rapprocher, en tout cas, de ce que notamment la sociologue Nathalie Hennisch a appelé un totalitarisme d'atmosphère. Il n'y a qu'une pensée totalitaire qui puisse, à ce point, évacuer des vérités, réécrire l'histoire, comme... Et ça me fait penser, moi, naturellement, toujours à ce fameux livre d'Orwell, 1984, où à la fin, un des principaux acteurs de ce livre, qui reçoit les propagandes de l'État...
Big Brother
finit par dire et par applaudir au fait que 2 et 2 font 5. Aujourd'hui, nous sommes priés de soutenir que 2 et 2 font 5, comme une partie de la presse, on en avait parlé la semaine dernière, a accepté de dire qu'un homme pouvait être enceint, puisque le planning familial
promu dans le planning familial, effectivement.
Le planning familial lui-même avait dit qu'au planning familial, on sait que des hommes peuvent être enceints. On est vraiment dans la propagande d'État, on est dans le dénégationnisme, et c'est un dénégationnisme qui veut montrer que non seulement la France a toujours une terre d'immigration, ce qui est faux, on sait très bien que la France n'a été une terre d'immigration qu'à la fin du 19e siècle, avec une immigration européenne qui, quand elle s'est assimilée, s'est formidablement assimilée. Nous avons tous en mémoire, naturellement, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, que sais-je, encore, mais que cette immigration extra-européenne qui est apparue dans la deuxième moitié du XXe siècle est une immigration qui n'a plus rien à voir avec cette immigration européenne-là. Et donc, on veut nous faire croire également que cette immigration européenne serait comparable, dans le fond, avec cette immigration extra-européenne, qui est une immigration du Maghreb et d'Afrique noire pour l'essentiel, mais qui, ce n'est pas pour cela qu'elle ne s'intègre pas, d'ailleurs, ce n'a rien à voir, mais elle ne s'intègre pas parce qu'elle fait venir une autre civilisation, elle fait venir un autre mode de vie, d'autres religions. Et on voit bien que la cohabitation entre la civilisation occidentale et cette civilisation majoritairement musulmane ne va pas de soi, c'est pour dire les choses simplement. Et donc, il y a là aussi une sorte de volonté de vouloir cacher des vérités, de vouloir dissimuler, et je trouve insupportable, dans le fond, que d'avoir à supporter ces grands mensonges d'État, ces mensonges d'officiels.
Avant d'entendre Véronique Jacquier, arrêtons-nous sur un mot que vous avez utilisé, dénégationnisme. Vous entendez
Dénégationnisme, c'est un mot que je propose pour définir, dans le fond, cette propension qu'a le discours officiel aujourd'hui à dénier des réalités. On est dans le déni des réalités. Donc le dénégationnisme est ce discours qui dénie des réalités. Alors c'est un discours qui, naturellement, est appliqué, non pas simplement par ce gouvernement, c'est un discours qui est appliqué par tout le politiquement correct, qui refuse notamment de voir quels sont les problèmes que peut poser une immigration. Et donc on a perdu énormément de temps avec ce dénégationnisme-là. Mais c'est un dénégationnisme qui, certes, une partie de la gauche commence à s'en défaire, mais... J'ai remarqué que dans les déclarations qui ont fait suite, notamment à l'attentat d'Annecy, où on a vu un réfugié syrien s'en prendre à des bébés pour tenter de les poignarder, d'ailleurs, Il y a eu tout encore un flot de commentaires de ces dénégationnistes-là, donc, que je vous cite parce qu'ils sont très révélateurs quand même de l'aveuglement idéologique de tous ceux qui veulent nous faire croire que la France est un pays, a toujours été un pays d'immigration. J'ai entendu par exemple Mme Clémentine Autain de LFI, la France insoumise, nous dire après ce drame d'Annecy, il n'y a pas de lien entre ce drame et l'immigration. J'ai entendu le sociologue Jean Viard nous rappeler toujours après, en commentant ce drame d'Annecy, il faut rappeler que la délinquance des immigrés n'est pas supérieure au taux des Français. L'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires. Je pourrais rappeler également Jacques Attali qui, dans Les Échos en 2019, nous avait dit il n'y a aucun envahissement de la France ni de l'Europe par l'islam ou par l'Afrique. 99% des migrants non européens s'intègrent parfaitement dans la nation française. L'islam n'est pas une menace pour la France. Il en est une composante depuis le 8e siècle. Ça faisait penser à Chirac qui nous avait dit également il y a quelques années « Les racines de la France sont autant musulmanes que chrétiennes ». Bref, vous avez là tout de même une sorte de désinformation officielle qui est avalisée par les plus grands, et singulièrement les plus grands dépenseurs, concernant cette campagne du musée de l'intégration par M. Boucheron, qui était un grand historien également reconnu, en tout cas sur la place publique, mais reconnu également pour son militantisme. Et donc, ceci avalise des faits qui sont contredits par le président de la République lui-même, parce que le président de la République lui-même a reconnu, enfin, bien qu'il soit un petit peu dans cette tendance à l'aveuglement et au déni, qu'il y a bien un séparatisme, qu'il y a bien une violence qui est spécifique aujourd'hui aux étrangers. Il l'a dit ainsi, que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a admis également que les étrangers étaient les fauteurs de troubles à plus de 50%, en tout cas sur Paris. Et donc, voilà où on en est de ce mensonge organisé qui ne semble, a priori, n'émouvoir personne.
Vous rappeliez effectivement ces chiffres, hein, une réalité. Alors, je vais vous demander pourquoi ça ne suffit pas, ces réalités, à démentir ces propagandes dans un instant. Mais peut-être avant, Véronique Jacquier, est-ce que c'est vrai qu'à travers l'affiche qu'on va peut-être pouvoir revoir, il y a une volonté d'écarter les Français de souche, comme le disait Yvan, au profit des Français issus de la diversité? Est-ce que vous le constatez? Vous diriez ça également ou pas?
Oui, elle traduit une réalité, cette affiche, c'est qu'il y a un mot qui a complètement disparu de notre vocabulaire, c'est le mot « civilisation ». Pourquoi ? Parce que cette affiche, c'est pas du second degré hein, pour ceux qui l'ont conçue, et c'est ce qui me paraît extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des alliances entre maisons royales, comme ça se faisait à l'époque, mais il y a une méconnaissance justement de l'apport civilisationnel à travers ces alliances, c'est-à-dire que quand François Ier choisit comme belle-fille, par exemple, Catherine de Médicis, il l'a choisi parce qu'il veut évidemment prendre dans son giron des duchés italiens, mais c'est aussi un fou de la culture et des arts italiens. Il aime tout ce qui vient de l'Italie. Donc c'est une civilisation et il y a des échanges, il y a des passerelles, il y a des enrichissements entre ces grandes maisons. La troisième chose, c'est que de toute façon, ces alliances ont toujours été facteurs d'assimilation. Souvenez-vous, Marie-Antoinette autrichienne, elle est la reine de tous les Français. Alors si aujourd'hui, quand on parle d'intégration et d'intégration étrangère, on a vu une assimilation aussi bien réussie, on pourrait s'en féliciter, donc ce n'est évidemment pas le cas. Donc cette affiche, elle traduit quoi? Elle traduit effectivement ce que disait Yvan, ce totalitarisme d'atmosphère, dans la mesure où on veut nous faire croire que toutes les immigrations se valent. Or, l'Autriche, c'est pas l'Afghanistan, et l'Italie, c'est pas le Nigeria. Il y a bien entendu, et là j'en reviens à la question de la civilisation, des apports civilisationnels en termes d'immigration au XIXe siècle, qui se retrouvaient autour d'une matrice catholique, autour de terres chrétiennes, les Italiens, les Espagnols, etc. Donc Yvan l'a très bien raconté, on se rend bien compte qu'on n'en est plus là et qu'il y a des chocs de civilisation qui sont en train de se mettre en place. Il faut quand même rappeler que l'Europe, pendant des siècles, a lutté contre la conquête ottomane, et ça c'est pas un mythe. Et moi ce qui me paraît quand même terrifiant de la part de nos politiques, c'est à quel point ils n'ont plus ce logiciel historique, à quel point non plus cette boussole historique, cette mise en perspective. Dans le temps, c'était une évidence. Donc ce mot civilisation a bel et bien disparu et c'est bien dommage. Alors après, qu'en sera-t-il quant à la façon de traiter l'immigration quand on voit effectivement le déni de réalité qui s'est manifesté à travers le drame d'Annecy? Bien, je pense qu'il faut prendre tout simplement ce qui se passe dans des pays comme la Suède ou le Danemark. Petits pays, mais ils se disent La loi du nombre peut faire force, notre modèle social peut disparaître. Donc, eh bien oui, on met en place un sursaut. Et là, c'est tout l'arc républicain qui participe. C'est pas un parti par-ci, des propositions par-là. Non, c'est tout un pays et tout un monde politique qui se dit il faut savoir se défendre.
Vous parliez de déni de réalité, justement, Yvan Rioufol, ma question. Est-ce que les réalités reconnues par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, vous le disiez il y a un instant, est-ce que, eh bien, elles ne suffisent pas à démentir la propagande relayée par ce genre d'affiches?
On pourrait le penser, parce que la force des réalités est telle, en effet, maintenant, qu'elles deviennent, ces réalités deviennent révolutionnaires. Mais on voit bien que ce mémoricide n'arrive pas, malgré tout, à être vu comme il est, là, avec cette promotion de la société multiculturelle, parce qu'il y a encore énormément de réticences. Alors, certes, j'observe, tout le monde observe, bien sûr, que par cette force des réalités, par cette révolution du réel, les yeux s'ouvrent enfin sur l'immigration, puisque c'est de ceci dont on parle. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles, et singulièrement, d'abord, vous avez toute une partie de la gauche la plus dogmatique qui refuse, j'en ai fait la démonstration rapide à l'instant, qui refuse d'admettre que l'immigration puisse avoir des liens avec l'insécurité. Puis vous avez toute une autre partie de la gauche dite républicaine, la gauche dite réaliste, qui est venue sur le terrain, dans le fond, de la droite bien tardivement, en admettant l'évidence qu'en effet il y avait un problème civilisationnel, pas simplement économique et social, mais civilisationnel, qui avait été décrit depuis longtemps par toute cette droite-là, sauf que cette gauche que j'appelle la gauche snobinarde est une gauche qui veut absolument se démarquer de cette droite afin de ne pas se mêler à l'engeance, à la populace, si je puis dire, et qui est la première à dégainer à chaque fois des critiques en populisme ou que sais-je encore, en complotisme, en anti-vax, enfin, on connaît toutes ces antiennes. Et cette gauche-là, cette gauche snobinarde, fait perdre également beaucoup de temps. Je m'empresse de dire que dans cette gauche qui s'est converti au réalisme, vous avez quand même quelques belles exceptions, comme Michel Onfray notamment, qui lui ne tombe pas dans ce travers d'accuser ceux qui pensent comme lui dans le fond, mais qui ne veut acquis de populistes au prétexte qu'il serait de droite, effectivement. Donc cette gauche-là, cette gauche snobinarde m'énerve profondément. Mais à côté de ceci, vous avez également toutes ces
idéologies woke peut-être.
Effectivement, merci, vous êtes gentil de venir à mon secours. Quand je perds pied, on pourrait penser que l'effondrement des idéologies, les grandes idéologies dont on va parler tout à l'heure avec Stéphane Courtois, aurait pu nous vacciner pour le reste, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une survenue d'autres idéologies encore peut-être plus graves, alors qui sont le wokisme, qui sont le scientisme, qui sont le néo-féminisme, qui sont tout ceci, et qui rajoutent dans le fond à cet aveuglement et qui empêchent encore une fois d'avoir à se confronter aux réalités telles qu'on voudrait le faire. En fait, je suis abasourdi par le temps que l'on a perdu depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans à se bercer d'illusions. Quand je lis, par exemple, avec beaucoup d'intérêt, ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, en disant que l'immigration était devenue un problème, j'applaudis à tout ceci, que l'immigration, quand il dit que l'immigration du fait accompli devient insupportable, j'applaudis. Quand il dit que l'immigration est la source d'une embolie des services publics, j'applaudis. Quand il dit que l'immigration, face à l'immigration, il faut revoir les accords vis-à-vis avec l'Algérie passés en 62, j'applaudis tout cela. Mais enfin, pourquoi n'a-t-il rien fait lorsqu'il était Premier ministre? Et je pourrais dire un petit peu la même chose dans le fond des Républicains qui ont tenu leurs états généraux ce week-end, qui, certes, ont une vision un peu plus audacieuse encore que le président que l'ancien Premier ministre, mais qui, là encore, n'osent pas aller au terme de leur réflexion et de poser le problème de savoir quels sont les accès à la nationalité que l'on doit permettre ou pas. Est-ce que l'on doit remettre en cause, c'est un peu mon combat, est-ce que l'on doit remettre en cause le droit du sol, le regroupement familial? Et il y a encore une sorte d'inertie au cœur même de ces gens qui se disent aujourd'hui réalistes, parce qu'il y a encore trop d'interdits, parce qu'il y a encore trop d'intellectuels qui leur disent qu'ils vont faire du populisme s'ils vont trop loin, et tout ceci devient accablant. On a perdu beaucoup de temps.
Je vous propose, vous parliez d'idéologie woke il y a un instant, je vous propose à présent que nous nous posions cette question: est-ce qu'il faut subir la loi des minorités? Alors, vaste question, on a un peu moins de 5 minutes pour y répondre, mais l'écriture inclusive imposée par le militantisme néo-féministe s'installe dans les universités sans rencontrer d'obstacles sérieux. C'est ce qu'on apprend quand on lit une enquête du Figaro, elle a été publiée mardi, Yvan. Ça vous inspire quoi, cette réalité?
Cette réalité m'inspire le fait que c'est un mauvais signal donné à la démocratie. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, c'est la loi de la majorité. Et là, nous vivons sous la tyrannie des minorités, singulièrement la tyrannie du lobby LGBT. Et le tort que nous aurions, c'est de croire que c'est lubie des LGBT qui, avec l'écriture inclusive, avec les mots nouveaux, etc., serait en fait une sorte de petit amusement passager, de
mode anecdote ridicule,
une anecdote, une mode passagère qui passera. Non, je pense qu'il faut faire très attention. Les minorités font les révolutions. C'est vraiment tous les révolutionnaires vous le diront. Et d'autant que dans le fond, il n'y a pas de la faiblesse de l'État est telle et l'endormissement de l'opinion est tel que ces minorités-là, pour l'instant, avancent comme dans un ventre mou. Et donc, il faut prendre garde naturellement à la dialectique qu'elle déploie, qui est une dialectique qui est très inspirée d'ailleurs de l'autre minorité qui est celle des islamistes, qui eux se protégeaient par l'islamophobie. Et aujourd'hui, vous avez la même manière de vouloir se victimiser en menaçant de faire des procès en homophobie, en populisme pour les scientistes, etc., en écologisme, en obscurantisme, pardon. Et donc, voilà, on est encore une fois dans ce terrorisme intellectuel qui devient insupportable. Et en fait, par notre indifférence, nous sommes habitués à non seulement à entendre le président de la République nous parler de celles et ceux, mais maintenant d'avoir accepté le point médian et ensuite d'avoir accepté des mots affreux comme le IL qui remplacerait, qui viendrait mettre dans un seul mot le il et le elle pour les non-binaires, etc. Et donc nous assistons à un saccage les bras ballants parce que nous ne savons pas répondre à ces minorités qui sont des minorités qui se veulent plaintives et qui, à la moindre contrariété, en appellent à toutes ces phobies que je vous ai décrites.
Véronique Jacquier, effectivement, face à cette loi des minorités, est-ce qu'il y a une posture finalement qui pourrait contrer ce phénomène insidieux finalement ?
Pour l'instant, c'est compliqué parce que quand on regarde l'opinion, il y avait un sondage cette semaine, un sondage CSA pour CNews. 58% des personnes interrogées pour interdire l'écriture inclusive, mais ça signifie quand même qu'il y en a 42% qui sont pour. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc, on voit bien qu'il y a une intoxication des esprits, notamment chez les jeunes, qui disent « mais non, mais c'est normal que la langue évolue ». Alors ça les dérange pas de voir disparaître le féminin et le masculin, donc on leur propose quand même un drôle de monde. Et puis surtout, ils ne se rendent pas compte que ça veut dire qu'on fait de la langue uniquement un instrument de combat et qu'on lui enlève toute sa portée, sa dimension universelle, ce à quoi s'employait l'Académie française pendant des siècles. Voilà, on est en train de tout déconstruire, on a le sentiment quand même que ça ne dérange personne. Alors bah justement, nous on s'emploie à dire que ce n'est pas normal et qu'il faut arrêter ces dérives. Il y a quand même eu des actions en justice, notamment vous avez vu à l'université de Grenoble, C'est d'autant plus grave quand je parle de dérive que vous allez voir que dans quelques temps, on va en être à distribuer des points bonus pour les étudiants qui utiliseront l'écriture inclusive dans leurs examens. Ça veut dire que ceux qui ne l'utiliseront pas seront saqués. Donc ça va quand même très, très, très loin. Donc il faut des lanceurs d'alerte.
Il nous reste un peu plus d'une minute, Yvan, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a un lien entre l'écologisme et ce wokisme, cette écriture inclusive, donc c'est une écologie que vous contestez. D'ailleurs, parfois, on se demande quel est le lien.
Oui. Et en tout cas, sur toutes ces idéologies, il faut apprendre à résister. Parce que, singulièrement sur l'écologisme, si l'on veut bien faire le bilan, malgré tout, de tout ce qu'il a pu influer, de ses influences sur les décisions politiques elles-mêmes, ces influences sont désastreuses. Il faudrait tout de même prendre un peu de recul. C'est à cause de l'écologisme, pardon, que le parc nucléaire a été saboté. C'est à cause de l'écologisme que les parcs paysagers, les paysages ont été également saccagés à travers les éoliennes. Ce sont les écologistes qui sont en train de mettre en place des fiscalités punitives, qui sont en train d'installer des zones de faible émission qui interdiraient aux voitures des gens les moins aisés d'accéder au centre-ville, dans les villes même, en discriminant. Ce sont ces écologistes-là qui veulent éliminer le cheptel des éleveurs au prétexte que le pet des vaches influerait sur le réchauffement climatique. Ce sont ces mêmes écologistes qui voudraient interdire l'avion et ne proposer l'avion que 4 fois dans une année des délires de ce genre-là, qui, là encore, ce week-end, sont en train de lutter contre le train, cette fois-ci, à travers le projet de liaison Lyon-Turin. Et on pensait que le train, malgré tout, pouvait avoir les faveurs de cet écologisme-là. Et en fait, il n'en est rien. On se rend compte qu'ils se comportent comme des petits maîtres dans leur domaine avec une violence extrême dès qu'il s'agit, par exemple, de vouloir imposer leur loi aux maraîchers nantais très récemment, ou quand ils refusent de se soumettre à la décision du gouvernement qui tarde à l'appliquer d'appliquer la dissolution du soulèvement de la terre. Et puis vous avez eu cette grande dinguerie qui est apparue sur les réseaux sociaux.
Pour conclure, l'écosexualité,
où l'on a vu des écologistes qui voulaient faire l'amour avec la terre, parce que la terre n'était pas nourricière, mais amante, et donc avec des sextoys et se baladant à poil dans les jardins, ont voulu montrer que la terre devait être aimée de cette manière. Donc,
complètement,
on criait au fou.
Complètement absurde, effectivement. Merci Yvan Rioufol. Restez avec nous, puisque dans un instant, vous recevez Stéphane Courtois, ancien maoïste, devenu historien du communisme et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout de suite sur CNews, face à Rioufol. On revient dans un instant avec Yvan Rioufol, bien sûr, et Véronique Jacquet. Et de retour sur le plateau de Face à Rioufol, bienvenue si vous nous rejoignez, et vous faites bien puisque dans un instant, Stéphane Courtois, ancien maoïste devenu historien du communisme, sera l'invité d'Yvan Rioufol. C'est tout de suite, mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
La France frappée par de violents orages. Une quarantaine de départements sont en vigilance orange, du sud-ouest à la Normandie, aux Hauts-de-France en passant par le centre. Le trafic ferroviaire est perturbé sur plusieurs lignes en Île-de-France. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Enfin, compte tenu des inondations, prudence si vous prenez la route. Justice pour l'INSEE, non au harcèlement scolaire. Vêtus de blanc, plusieurs centaines de personnes ont défilé ce matin à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais en hommage à la collégienne. Ses proches appellent au soutien de l'État et réclament des mesures concrètes de protection des élèves face au harcèlement. Âgée de 13 ans, l'INSEE avait mis fin à ses jours en mai dernier. Et puis Anthony Blinken en déplacement à Pékin. Au premier jour de la visite du secrétaire d'État américain, Washington a salué des discussions constructives et honnêtes. Les sujets de friction restent nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan. Mais l'idée était d'amorcer un dégel diplomatique et maintenir un dialogue. Anthony Blinken a invité en retour son homologue chinois, ce que Qin Gang a accepté.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 21h. Je vous le disais, nous accueillons autour de ce plateau Stéphane Courtois. Bonsoir. Alors vous êtes ancien maoïste, devenu historien du communisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes auteur du célèbre Livre noir du communisme et votre dernier ouvrage, Le Livre noir de Vladimir Poutine. Dans un instant, je vous laisse face à Yvan Rioufol. Mais avant Yvan, cette question... Pourquoi avoir voulu ce soir inviter Stéphane Courtois ?
Mais parce que Stéphane Courtois est le meilleur des spécialistes, des historiens du totalitarisme. Alors effectivement, quand il était petit, il a plongé dedans, si je puis dire. Enfin, quand vous étiez étudiant, vous étiez maoïste, donc vous
Bien
connaissez
sûr.
Tous les travers et
Absolument.
Tous les ressorts de cette pensée. Et c'est un peu en tant qu'expert que j'ai voulu vous inviter pour que vous nous... expliquer si, comme je tentais de l'expliquer, nous sommes face à une sorte de totalitarisme d'atmosphère à travers ces nouvelles idéologies qui surviennent et qui tentent à remplacer les idéologies passées qui étaient le communisme notamment, le nazisme et bien d'autres encore, le maoïsme et bien d'autres encore. Mais auparavant, avant de vous interroger sur cette présence du totalitarisme, nous avons appris ce matin que le président de la République allait panthéoniser Misak Manouchian, qui est donc un résistant communiste arménien qui faisait partie d'un groupe de résistants fusillés en 1944, qui avait été chanté par Léo Ferré avec l'affiche rouge sur des paroles d'Aragon. Et je voulais avoir votre sentiment, parce que je crois que votre sentiment est malgré tout mitigé sur cette panthéonisation. Expliquez-nous.
Oh, il est plus que mitigé, parce qu'en tant qu'historien, je trouve cette opération purement politicienne. C'est une opération qui a été lancée il y a déjà plus d'un an et demi, parce que je suis très bien informé de ce qui se passait à ce propos. Je suis en plus un des historiens qui certainement connaît le mieux cette histoire de Manouchian, de son groupe, de ses francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui étaient les groupes de combat du Parti communiste dans la résistance qui regroupaient les étrangers, puisque le Parti communiste avait des groupes de Français et des groupes d'étrangers. Et donc voilà, alors, il est très clair à mon avis...
Mais vous lui déniez d'avoir été résistant ? Quel est le...
Non, pas du tout, pas du tout. Misak Manouchian a été tout à fait résistant. Ça n'est pas la question. Non, la question, c'est qu'on a affaire à une espèce de fusée à quatre étages. À l'étage du bas, on a la famille de Manouchian et autour de Manouchian, y compris la famille Aznavourian. Hein, Charles Aznavour était en, la famille de Charles Aznavour était en relation avec la famille Manouchian, etc. Donc ça, c'est une première chose, une première revendication de cette famille. Bon, au deuxième étage, on a le maire de Valence, de la ville de Valence, qui est chez les Républicains, donc un gaulliste, enfin entre guillemets, et qui donc à Valence, il faut savoir qu'il y a une très forte communauté arménienne. Hein, des Arméniens qui ont été sauvés par la France après le génocide turc de 1915-1916, dont Manouchian était d'ailleurs un des bénéficiaires. Et beaucoup de ces gens, de ces Arméniens arrivés en France, se sont installés à Valence, dans la Drôme. Donc il y a une très grosse communauté arménienne. Et donc, évidemment, le maire de Valence soigne à la fois sa communauté arménienne et puis la mémoire gaulliste. De la résistance, bien entendu. Le troisième étage, c'est un étage d'historien, en particulier un historien que je connais très bien, Denis Péchanski, qui a cautionné cette opération et qui d'ailleurs s'exprime beaucoup actuellement dans les médias et qui donne donc une espèce de caution historienne à cette démarche. Hein, avec y compris la présence de Robert Guédiguian, ce cinéaste d'origine arménienne et communiste, et toujours communiste, et qui se réclame toujours très fortement du communisme, hein, qui avait d'ailleurs consacré, parmi ses films, un film à l'histoire de Manouchian et de ses camarades dans la résistance, un film qui, évidemment, pour les historiens, relève de la fiction, il faut bien le dire. Puis alors, le quatrième étage, c'est le président de la République. Parce que le maire de Valence, que M. Péchanski, que M. Guédiguian tiennent des propos, demandent que Manouchian soit au Panthéon, pourquoi pas ? Mais que le président de la République accède à cette demande, alors ça, c'est beaucoup plus surprenant. Cela dit, quand on le voit sous un angle, non pas d'historien, mais politique, la chose devient assez claire. Vous n'avez pas échappé qu'on va vers une discussion sur la question de l'immigration et d'une loi sur l'immigration au Parlement, etc. Donc, Monsieur Macron se positionne d'une certaine manière, et je dirais même se positionne en faisant une espèce de chantage. Voilà, bon, si vous êtes contre mes propositions, c'est que vous êtes contre la résistance, etc., etc. On voit très bien se profiler ce petit discours, et ça se terminera certainement par une lettre de remerciement du patron du Parti communiste français, Monsieur Roussel, à Monsieur Macron. Hein. De la même manière d'ailleurs que, souvenez-vous, Monsieur Sarkozy avait fait cette histoire de la lettre du jeune Guy Môquet. Bon, et ça s'était terminé d'ailleurs par une lettre de remerciement de Madame Marie-Georges Buffet, patronne du PCF, à Monsieur Sarkozy. Bon, simplement, les historiens sont passés derrière, hein, et ont démonté entièrement l'espèce de mythologie que Monsieur Sarkozy avait construite autour de la lettre de Guy Môquet. Donc la lettre de Guy Môquet, on n'en parle plus du tout. Elle a disparu.
Pour revenir à Manouchian, je n'ai pas bien saisi malgré tout pourquoi, dans le fond, sa panthéonisation... Vous semblez vous énerver à ce point.
Parce que la devise du Panthéon, c'est « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Manouchian est-il un grand homme ? Alors, à quel titre le mettons au Panthéon ? Comme fusillé ? Excusez-moi, il y a eu au moins 4500 fusillés par les Allemands. Quand on dit fusillé, c'est très précis. Hein. Ce sont des résistants qui ont été arrêtés, qui sont passés devant un tribunal militaire allemand, condamné à mort et fusillé. Bon, 4500. Bon, pourquoi celui-là ? Il y en a des milliers d'autres. Il y a des milliers d'autres familles qui pourraient dire, mais pourquoi mon grand-père, pourquoi mon grand-oncle, pourquoi ma grand-mère n'est pas au Panthéon, etc. Donc, hein. Non, ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, et dans l'espèce d'appel d'offres qu'il y a eu sur cette histoire, et j'ai moi-même été sollicité d'ailleurs, hein. J'ai refusé de répondre, mais j'ai été sollicité. Le profil était très clair. Il n'y a pas d'Arméniens et de communistes au Panthéon, donc il faut en mettre.
D'accord.
Bon, il n'y a pas de catholiques. Alors, à ce moment-là, Monsieur Honoré d'Estendorf, le premier fusillé... Pourquoi ne pas le mettre au Panthéon ? Ah bah oui, mais il est monarchiste et catholique, c'est délicat. Non, enfin, je veux dire, vous voyez, on est dans une espèce de choix qui n'a pas de sens, sauf un sens politique. Parce qu'évidemment, M. Macron va se rallier la gauche avec cette affaire, évidemment, hein, puisque Manouchian, c'était la grande idole communiste, Louis Aragon, son fameux poème de 1956, Léo Ferré, mise en musique 1969, et en tant que 68ard, on a tous chanté, et on a tous applaudi, etc., bon, à cette chanson. Hein. Donc voilà, c'est Monsieur Macron fait du en même temps. Bon, il se sert de cette opération panthéonisation hein, pour donner un petit coup vers la gauche, hein, en disant voilà, regardez, hein, bon. C'est comme la chauve-souris. Bon, regardez mes ailes, je suis oiseau. Regardez, bon,
abordons si vous voulez bien.
Enfin bon, on va voir. L'affaire ne fait que commencer.
Ah, elle ne fait que commencer.
Ah, mais certainement. L'affaire ne fait que commencer. Et les historiens, en tout cas un certain nombre d'historiens qui sont en désaccord total avec cette mise au Panthéon de M. Manouchian, parce que justement, M. Manouchian n'était pas un grand homme. Hein. En tant que résistant, c'était un médiocre résistant, il faut bien le dire. Hein. Il a conduit tout son groupe à la catastrophe. Hein. Ça s'est terminé par plus de 60 arrestations, 21 fusillés. Donc, excusez-moi. Attention, ça n'enlève rien à son courage. C'est pas la question, c'est un résistant.
Oui,
mais si on choisit un résistant, au moins qu'on choisisse un résistant qui a bien fait son job, si je puis dire. Bah, par exemple, le chef de Manouchian, Boris Holban, un juif roumain, hein, qui était le fondateur des FTP-MOI, qui les a conduits jusqu'au bout, et qui a été, et là c'est intéressant de le remarquer, qui a été le dernier décoré sous l'Arc de Triomphe par François Mitterrand le 8 mai 1994, c'est-à-dire le dernier 8 mai de François Mitterrand, eh bien c'était Boris Holban. Il y avait 3 personnes qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Le dernier, c'était Boris Holban. Et Mitterrand avait quand même une petite idée de qu'est-ce que c'est que la résistance, quand même, qu'est-ce que c'est que l'évasion. Il s'était évadé par le même réseau de bonnes sœurs que Boris Holban en 1940, pour Holban, en 1942 pour Mitterrand. Donc voilà... C'est pas par hasard que Mitterrand décorait cet homme et le décorait en dernier. C'est-à-dire, c'était vraiment un acte final, je dirais. Bon. Donc voilà, s'il y a quelqu'un à mettre au Panthéon, c'est cet homme, hein, qui était un résistant, qui a été clandestin pendant 4 ans, qui ne s'est jamais fait arrêter, hein, qui a liquidé un traître qui avait joué un rôle dans cette affaire. Il l'a personnellement liquidé. Hein, on ne rigolait pas à cette époque.
Je vais vous interrompre. Parce que
vous avez compris que c'est une affaire qui ne fait que commencer.
Qui fait commencer, nous avons bien compris. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que le temps file malheureusement, que vous nous expliquiez si vous décelez vous-même, comme je peux le voir moi-même, ce totalitarisme d'atmosphère qui s'installe à travers notamment des nouvelles idéologies qui arrivent, le wokisme, le néo-féminisme, l'écologisme, le scientisme, enfin, on pourrait égrener, et de savoir si vous jugez ces mouvements aussi dangereux que les mouvements précédents, qui ont été ceux auxquels même vous avez pu collaborer en s'agissant du maoïsme notamment.
Avec une différence, parce que quand on était maoïste, trotskiste, etc., on chantait les louanges d'un régime, d'un système, etc., simplement la réalité est venue percuter tout ça. Hein, on a, bien avant que l'URSS s'effondre, bien avant que les crimes de Mao soient révélés, tout ça a été connu et nous est arrivé en pleine figure. Donc là, il a fallu, bon, quand vous êtes face au mur de la réalité, il faut choisir.
Vous étiez maoïste jusqu'à quelle époque vous-même?
J'étais maoïste quand même à plein temps pendant presque 5 ans, hein, oui. De 68 à 62. Je tenais une très grande librairie maoïste à Paris, etc. Donc j'étais très actif. Je passais mes journées et mes nuits à militer.
Et donc, bon. Est-ce que vous reconnaissez les mêmes mécanismes
à travers ça? Voilà, les méthodes sont les mêmes. Ce sont les vieilles méthodes léninistes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de ces écologistes féministes, etc., je dirais les fondateurs de ces mouvements, Madame Butler pour les États-Unis, etc., ce sont en réalité des vieux marxistes, hein, des vieux léninistes. Simplement, là aussi... la réalité leur est arrivée en pleine figure, l'effondrement de l'URSS, tout le caractère complètement fallacieux de tout ce projet, de toutes ces fausses réalités à la Potemkin, etc. Donc bon, on ne pouvait plus militer là-dessus. Et puis la classe ouvrière, eh bien, il y avait presque plus de classe ouvrière, du moins la classe ouvrière traditionnelle d'usine, etc. Donc voilà, il a fallu changer de cheval. Vous changez de cheval. Vous menez un combat, il n'y a plus de support, bon, vous changez de cheval, avec les mêmes méthodes.
Alors, les mêmes méthodes et les mêmes buts, mais les buts sont un peu différents.
Alors, les buts sont un peu différents et sont d'une certaine manière plus inquiétants. Parce que quand on était marxiste, léniniste, maoïste, etc., il y avait un projet, c'était on fait la révolution, on prend le pouvoir, etc. Et puis bon, ça se casse la figure. Tandis que là, c'est beaucoup plus pernicieux. Là, c'est on pénètre, on dit pas on fait le grand soir, on va prendre le palais d'hiver. Non, on pénètre tous les réseaux, l'université, l'État, etc. Remarquez que toutes ces associations qui ne se font jamais élire, hein, se propulsent sous les robinets d'argent public, etc. On a la fameuse affaire de Madame Schiappa qui est bien embarrassante quand même, bon, avec son association Marianne. Hein, donc voilà, ce sont les. Mais à l'époque, nous, on ne se battait pas pour se mettre sous les robinets d'argent public. Bon, c'est la grosse différence. Bon, et même souvent, on y a perdu des plumes. Bon, moi, je sais pas, j'ai arrêté mes études pendant 5 ans. Bon, tant pis, hein, c'est mon problème. Bon. Tandis que là, bon, on a vraiment des gens qui veulent du pouvoir, qui veulent des positions de pouvoir, même petites, hein, même petites. Quand même, si vous devenez député, c'est quand même une situation intéressante. Hein. Et puis, à partir de là, vous nouez des relations, etc. Et puis, vous êtes dans un milieu qui va vous permettre, tout simplement, alors que vous n'avez pas de métier, que vous n'avez rien appris, que vous ne savez rien faire... Vous aurez une position sociale, hein, et puis alors bon, au nom de l'écologie, au nom des LGBT, au nom de ceci, au nom de cela, bon.
Véronique Jacquier, vous vouliez poser.
Est-ce que c'est comme pour le régime communiste, c'est-à-dire qu'il faut attendre malheureusement que ce totalitarisme, que ce soit l'écoféminisme, que ce soit l'écologie, s'effondre pour se dire, bien finalement, c'était pas grand-chose et c'était des gens qui voulaient du pouvoir? Et où sont les résistances dans ces cas-là, une fois qu'on a compris ça? Comment on résiste? Ah
non, mais ces gens-là, justement, ils ont bien compris que l'idée de faire une révolution pour s'emparer du pouvoir à tel endroit, etc., c'était totalement terminé. Donc, au contraire, on infiltre. On infiltre, on noyote, on pénètre. Et donc, si personne ne les arrête... Bah...
Et quand vous dites « on », vous dites qui exactement?
Ce sont tous ces activistes. Tous ces activistes.
Hein. Est-ce qu'on peut les désigner comme étant à l'extrême gauche ou c'est trop...
Il y a de tout. Bien sûr, beaucoup viennent de l'extrême gauche. Mais bon, comme je le disais, ils ont changé de cheval. Hein. Donc, ils ont choisi des thèmes qui sont beaucoup plus subtils. Hein. Alors, évidemment, on arrive à des aberrations. Hein. Vous en parliez tout à l'heure. Quand on commence à dire « un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme », bon... On est en plein délire. Ouais. Il faut dire les choses. C'est du délire.
Oui.
C'est du délire, mais c'est du délire logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez le point de délire initial, ensuite, vous déroulez toute une logique. Ah, c'est la même chose avec l'écologie. Regardez l'incroyable propagande qu'on nous fait sur le réchauffement climatique avec un slogan incroyable. Sauvons la planète. Bon, sauvons la planète. Excusez-moi, la planète est là depuis 4 milliards 450 millions d'années. Elle se fiche pas mal des petits hommes qui courent à sa surface, hein, et elle en a vu d'autres. Bon, alors, qu'on nous dise qu'il faut sauver une partie de l'humanité parce qu'il va y avoir des réchauffements, ok. Mais sauvons la planète, c'est tout à fait autre chose. Hein, d'ailleurs, ça fait référence à ce que vous racontiez sur cet écolo-sexisme qui me paraît complètement loufoque. Mais oui, mais si vous réfléchissez bien à ce slogan « Sauvons la planète », c'est un slogan totalement mensonger. C'est-à-dire que la planète, elle sera là encore dans 1, 2, 3, 10 millions d'années, et ce qu'on fait à sa surface n'a aucune importance pour elle. D'ailleurs, la planète, cette anthropomorphisation de la planète est loufoque. La planète, c'est un amas physico-chimique.
Je suis désolé de vous couper. Il nous reste 1 minute 10. Le temps passe trop vite. Est-ce qu'il y a malgré tout des résistances et est-ce que ces idéologies-là sont aussi dangereuses que les précédentes?
Moi je les considère comme très dangereuses. Les seules résistances, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait des personnes qui, à un moment donné, se lèvent et disent « bon, stop ».
Hein, si dans une université, vous les voyez venir, c'est...
Non, je ne les vois pas tellement venir. Hein. Mais si dans une université, des professeurs acceptent de recevoir des copies en écriture inclusive, bon, c'est leur responsabilité. Moi, je continue d'enseigner dans une université. Si je reçois une copie en écriture inclusive, je vais dire à l'étudiant ou à l'étudiante, monsieur ou mademoiselle, vous allez me la réécrire en français. Sinon, ça va être classement vertical, la corbeille zéro. Bon, mais ça, voilà, c'est tout. Vous savez, la résistance passe d'abord par les hommes, par les gens, par les... Voilà. C'est pas les structures qui résistent. Hein. L'écriture inclusive, attendez. Regardez l'administration. Elle vous envoie des papiers en écriture inclusive, maintenant.
Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ?
Bon, je suis d'un naturel optimiste. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut, il faut combattre ça pied à pied. Ça, il n'y a pas de problème.
Un grand merci, Stéphane Courtois. Je le rappelle, ancien maoïste, devenu historien du communisme. On rappelle vos ouvrages, le célèbre Livre noir du communisme et le Livre noir de Vladimir Poutine. Un grand merci, c'était passionnant. Une émission à voir sur notre site www.cnews.fr. Un grand merci, Yvan Rioufol. Merci, Véronique Jacquier. Véronique Jacquier, qu'on retrouve dans Enquête d'esprit, dans un instant, aux côtés d'Émeric Pourbet. Quel sujet ce soir ?
Bien, les ordinations qui ont lieu au mois de juin, vous le savez.
C'est vrai.
Des hommes qui sont appelés à être prêtres. Bien, ils expliquent leur mission. Ils remettent l'église au milieu du village.
Et voilà. Ils l'expliquent tout de suite. C'est dans Enquête d'esprit sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite.